Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Les femmes dans la violence de l'histoire, c'est le titre du colloque qui a eu lieu entre le 28 et 29 novembre dernier au Mémorial de la Shoah. Il s'agissait de se pencher sur le sort fait aux femmes, à la féminité et à la maternité dans des conditions d'enfermement forcé ou de violence de guerre, y compris dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Au-delà des récits terribles rapportés par les témoins, il s'agissait aussi de redonner une parole à ces femmes qui sont encore parfois les oubliées de l'histoire et se pencher sur les spécificités féminines de la vie concentrationnaire et des réactions face à ces conditions extrêmes d'existence. Avec nous aujourd'hui pour évoquer ce sujet particulièrement douloureux, Annie Dayan-Rosenmann, professeure de littérature à Paris 7, qui a consacré sa communication aux conditions de vie des femmes en camp de concentration et aux formes que pouvait prendre le sentiment maternel et la maternité quand elles surgissaient dans ces lieux de mort. Annie Dayan-Rosenmann, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, je voudrais que vous nous évoquiez les différentes thématiques évoquées lors de ce colloque en dehors de la question directement liée à la Shoah, parce qu'il y a été question aussi bien de la dictature en Argentine, du génocide rwandais, du goulag. Donc il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été abordés au cours de ces deux jours de travail.
Oui, je voudrais peut-être déjà préciser que ce colloque, et c'était aussi cela qui m'intéressait, était un colloque en partenariat entre le Mémorial de la Shoah et l'UFR de littérature, LAC à Paris 7. Et donc, effectivement, cela donne un petit peu la coloration, c'est-à-dire qu'il y avait des textes littéraires, historiques, des approches peut-être un peu plus analytiques. Et l'idée de ce colloque part peut-être du constat d'un manque. Je l'ai fait, ce constat, au moment où je préparais ma thèse, puis quand je travaillais à mon livre, Les alphabets de la Shoah. C'est-à-dire que j'ai été confrontée et j'ai travaillé de très beaux textes, qui étaient des textes d'hommes, que beaucoup connaissent, Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertész, Jean Améry, pour le monde concentrationnaire, Robert Antelme ou Georges Samprin. Il est vrai que ce sont des très grands textes, mais j'ai aussi rencontré de magnifiques textes de femmes. Je n'en citerai que quelques-uns, par exemple celui d'Anna Langfuss, alors qui écrit en 60 Le sel et le soufre, qui en 62 a le prix Goncourt pour Les bagages de sable, et puis qui tombe dans un oubli pratiquement généralisé, des textes comme ceux de Anna Novak, Les beaux jours de ma jeunesse, de Giuliana Tedeschi, une femme à Birkenau qui n'est même pas encore traduite en français, de Liana Milou, dont Primo Levi disait que c'était un des grands textes écrits sur la Shoah, enfin Ida Fink. Et ce qui me semblait important pour commencer, c'était d'abord de les faire entendre, de les faire lire ou de les faire relire, parce que ce sont des textes qui font entendre une voix particulière sur des souffrances communes. Et je crois que l'idée qui a guidé l'ensemble du colloque, c'était de faire entendre la spécificité peut-être de cette écriture ou de ces voix de femmes, mais sans jamais, jamais oublier que c'est en tant qu'être humain qu'elles ont été niées, et c'est qu'en tant que juives, non en tant que femmes, qu'elles ont été vouées à l'extermination. Et effectivement, le colloque était construit sur une multiplicité d'expériences que vous avez évoquées. Et disons que la tension dans ces deux journées a consisté à ne jamais oublier d'entendre ces voix spécifiques, à toujours se souvenir que l'attaque était une attaque de l'humain et un désir de destruction du juif, que la Shoah est un contexte et une expérience très spécifique et très particulière, mais qu'en effet, dans l'histoire, et en particulier l'histoire du XXe siècle, les femmes ont été confrontées à des situations d'une violence extrême, mais aussi, elles ont réagi, je dirais, avec une capacité de résilience, une capacité de partage, une capacité peut-être aussi de créer du lien, que je tenais à spécifier, et là encore, sans jamais accepter une vue qui serait hagiographique, sans jamais accepter que les femmes soient présentées, entre guillemets, comme les meilleures ou comme parfaites. Elles ont fait ce qu'elles ont pu avec les armes qu'elles avaient. Et donc, on est bien au-delà d'un jugement. Il s'agit d'abord de les faire entendre.
Oui, ce qui est d'ailleurs intéressant, vous dites au début donc, de votre article, vous ne remarquez qu'il n'y a pas de féminin pour le mot témoin, alors que donc, dans l'histoire, la question du témoignage est toujours centrale, et qu'il y a aussi une tendance à mettre en scène un héroïsme qui serait typiquement féminin, qui serait fait à la fois de modestie et de sacrifice. Donc il y a aussi, il faut essayer de se défaire à la fois des clichés, en même temps accepter les témoignages pour ce qu'ils sont. Et, oui. les relire pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils disent.
Absolument. Ceci dit, il y a dans tout cliché une part de vérité. Et il est vrai que les femmes ont dû, je crois, faire bien plus que sauver leur vie et la vie de leurs enfants. Elles ont eu cet héroïsme au quotidien. Il y a cette phrase de Primo Levi que j'évoque tout à fait au début de « Si c'est un homme ». Parce que Primo Levi est celui justement qui est capable de regarder avec une empathie extraordinaire autour de lui. Et il dit, ben, les femmes, lorsque les détenus apprennent qu'ils vont aller en Allemagne, ce qui revient pratiquement à une condamnation à mort, elles n'ont oublié ni de laver le linge, ni les langes, ni les petits jouets. C'est ça aussi l'héroïsme au quotidien. Alors il y a d'autres... je dirais d'autres figures iconiques. Je pense à des femmes comme Hanna Senesh, par exemple, qui est un personnage très reconnu en Israël, puisque c'est une jeune israélienne, c'est une Hongroise qui émigre en Israël, qui se fait parachuter en Hongrie, où elle est massacrée, torturée, tuée. Il y a un personnage dont on entend de plus en plus, je dirais, évoquer le destin, qui est Mala. Celle qu'on appelle Mala la juive ou Mala la belge. D'ailleurs, récemment, Gérard Hubert a même consacré un livre à Mala. Et il en est de Mala un peu comme il a pu en être à un moment donné de Korczak. C'est-à-dire, il y a des sortes de personnages qui apportent de la consolation, je dirais de la consolation dans le pire. C'est-à-dire que Korczak, la consolation, c'est qu'il y a un adulte pour accompagner les enfants à la mort. Et dans le cas de Mala la juive, donc, qui a un poste plus ou moins privilégié au camp, qui en profite pour aider ses compagnes, qui connaît une histoire d'amour avec Edek, ce qui est presque impensable dans le monde du camp, qui arrive à s'évader avec lui, ce qui là aussi semble presque impensable, qui est rattrapée. Et alors là, il y a des séries de récits disons qu'ils se croisent, mais qui varient sur de petits détails en fonction de la place de ceux qui se trouvaient là. Donc, Mala la juive est là, c'est le grand spectacle qu'affectionnent les nazis, on va l'exécuter. Elle arrive à tirer une lame de ses cheveux, elle se taillade les veines pour prouver qu'elle ne meurt pas de la main des nazis. Et selon les versions, elle en tailladera le visage du nazi en face d'elle, où elle le giflera, où elle sera tuée, où elle sera emmenée au crématoire. Donc on a toutes sortes de versions, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a ce sentiment de toutes les femmes là pour ce courage, et non pas un héroïsme gratuit, parce que de toute manière elle était condamnée à mort, mais c'est quelqu'un qui leur a donné de la dignité, qui leur a donné de la dignité à toutes. Donc je crois qu'il y a ces icônes, et il se trouve en effet que cela peut correspondre à des images. Mais ce qui nous a surtout intéressé, donc c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'essayer de savoir ce que les femmes elles-mêmes ont dit de ce qu'elles ont vécu, donc travailler, évoquer, lire, analyser ces grands textes.
Et donc oui, Anna Dayan-Rosenman, vous montrez bien comment la question justement de la féminité et de la destruction de la féminité, qui est le préliminaire quand ces femmes arrivent en camp de concentration, dans ces camps d'extermination, une destruction de la féminité qui se fait entre autres par la tonte des cheveux et qui est quelque chose qui revient dans tous les récits de femmes. C'est ce moment où cette féminité s'en va et ce moment où les cheveux disparaissent, qui est un des moments les plus marquants pour ces femmes qui ont témoigné.
Absolument. Ce sont des scènes que l'on retrouve d'ailleurs aussi chez les hommes. Par exemple, le chapitre dans « Si c'est un homme » intitulé « Le fond » se situe très exactement au moment où il se retrouve nu, tondu, sans une seule trace de ce qu'il a été. Mais il est vrai que chez les femmes, ceci donne une sorte d'attaque très précise à la féminité et une attaque donc à la féminité aussi en tant que beauté. La beauté des femmes est détruite. Quelqu'un qui va écrire avec beaucoup de gouaille et beaucoup de... Je crois presque qu'on peut dire d'humour, si on pouvait faire preuve d'humour dans ces circonstances, et donc on apprend que oui, c'est Anna Novak qui donc va voir autour d'elle les femmes entrer comme des femmes, ressortir tondues avec la forme du crâne dessinée, et qui va attraper un fou rire, jusqu'au moment où elle va s'apercevoir très vite que ce n'est à travers cette attaque à la féminité ou cette attaque à la beauté, c'est une attaque contre l'humain. Et d'ailleurs, par exemple, quelqu'un comme Charlotte Delbault, lorsque Charlotte Delbault évoque ses compagnes mortes, elle évoquera leur beauté. Elle évoquera les seins de l'une, les cheveux de l'autre, les yeux de la troisième, tel teint, parce qu'elle est une des dernières à pouvoir non seulement porter témoignage de ce qu'elles ont été des humaines, des vivantes, mais de cette beauté qui a été détruite.
Et vous expliquez aussi qu'une des manières de résister à cette destruction, à cette déshumanisation, c'est une espèce de lutte permanente pour résister à la saleté, à la crasse, à la souillure, et à ce qui fait qu'on vous oblige à vivre dans des conditions de saleté permanente. Et c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans ces récits de femmes. Vous racontez ces tentatives pour, d'une manière ou d'une autre, se laver, s'occuper de soi.
Par exemple, se laver. Fania Fenlon raconte qu'elle se lave avec de la neige. Mais je crois que ça va plus loin. Disons que le geste de se laver est le geste d'une résistance. Mais derrière ce geste, je crois qu'il y a quelque chose presque d'une force vitale, d'une force de vie. C'est comme si les femmes acceptaient d'être des sortes de mères pour leur propre corps. Il y a à préserver le corps, parce que manger, ce n'est pas seulement apaiser la faim, c'est rester en vie. Se laver, c'est garder l'apparence, quand on peut, proche de ce qu'on a été, mais c'est aussi lutter contre la mort d'une autre manière. Et peut-être les femmes, je parle avec beaucoup, beaucoup de retenue, parce que je crois que c'est vraiment un domaine où les théories n'ont pas leur place, où d'une femme à l'autre, d'une expérience à l'autre, d'un camp à l'autre, les choses peuvent changer, mais elles ont aussi été capables de faire preuve, je dirais, de cette dimension maternelle pour le corps de l'autre. Et vous avez de très beaux textes chez Delbault, chez Anne Listern, d'un camp à l'autre revient cette tendresse que les femmes ont pu, et là encore je précise ont pu, parce qu'il y avait les capots avec leur fouet, parce qu'il y avait celles qui pouvaient pousser les autres et les empêcher de... Je veux dire, il y a eu toutes les expressions naturelles d'une lutte sauvage pour la vie. Mais en même temps, ce sont les seuls textes où j'ai trouvé l'expression de cette relation maternelle au corps de l'autre.
Oui, vous citez ce texte d'Anne Listern où elle, pendant un appel, elle a un moment de faiblesse, elle s'évanouit et elle dit que les femmes font rempart autour d'elle et que c'est comme si c'était du lait maternel qui jaillissait, comme le lait de la mère qui jaillit. Il y a effectivement cette métaphore de la maternité, du soin, de la solidarité de ces femmes entre elles à certains moments, parce que bon, cette solidarité n'était pas toujours possible.
Oui, à certains moments. C'est-à-dire que quand on parle de lait maternel, ou bien Charlotte Delbault raconte, c'est presque la même scène, et à chaque fois c'est dans la variante que vous entendez la voix de celle qui témoigne. Donc Charlotte Delbault est sur le point de se laisser tomber, elle veut mourir. Et elle sait que si elle se laisse tomber à l'appel, eh bien ce sera terminé. Et sa compagne la relève, la secoue, l'oblige à se lever, et elle a cette phrase qui est très belle. En fait, elle va vivre parce que sa compagne veut qu'elle vive. Et d'une certaine manière, c'est comme si sa compagne se dressait entre elle et la mort, et avait justement cette sorte d'injonction maternelle, tu dois vivre. Dans le cas de Anne Listern, ce lait maternel, c'est une expression magnifique, parce qu'en même temps qu'elle évoque ce lait maternel, elle évoque la dimension misérable de ces femmes elles-mêmes mourantes, mourant de froid, tremblant dans leurs habits, qui font rempart autour d'elles. Mais ceci amène peut-être à se rendre compte qu'il y a un déplacement. Et c'est peut-être l'une des dimensions les plus terribles de ces textes, c'est-à-dire que cette maternité choisie va venir en quelque sorte à la place d'une maternité funèbre, endeuillée, puisqu'être mère et juive pendant la Shoah, c'est être dans la douleur, être dans la peur, être dans l'angoisse, être dans le deuil.
Oui, vous expliquez bien, vous racontez bien à nouveau, on a tous en tête ces images de ces familles, ces mères avec leurs enfants dans les bras sur les rampes de sélection, où on sait que voilà, l'issue est fatale. Et en même temps, ces images, elles empêchent presque de réfléchir et de relire ces témoignages, permet malgré tout de reposer ces questions de comment est-ce qu'on peut être parent, comment est-ce qu'on peut être mère dans un endroit où il n'y a plus que la mort finalement et où cette dimension, ce sens de la maternité devient presque absurde.
Oui, il y a finalement, on pourrait presque décliner ces différentes douleurs des mères. Il y a celles qui ont caché leurs enfants, mais qui ne savent pas ce que ces enfants sont devenus. Et c'est donc une sorte d'angoisse. Il y a celles qui ont leurs enfants dans le camp. Et l'angoisse, c'est à la fois la joie de les voir quand elles peuvent les voir. Et puis, par exemple, dans le livre de Liana Milou, il y a cette femme qui voit son enfant, mais qui voit aussi que l'enfant a été sélectionné, c'est un adolescent. Et puis, il y a ces textes tout à fait étranges et, je dirais, bouleversants, qui, dans la douleur qu'ils suscitent, les scènes où les femmes accouchent au camp. Et ces scènes-là sont des scènes d'une puissance, je dirais même, d'écriture extraordinaire. Alors, il y a eu différentes femmes qui ont décrit cette situation. Par exemple, Germaine Tillion tient une sorte de registre du nombre de naissances, du nombre de morts. Mais disons que c'est important pour nous de le savoir. Je ne savais pas qu'il y avait eu tant de naissances, par exemple à Ravensbrück. Mais les textes qui racontent des scènes d'accouchement, par exemple, sont des scènes dont on a l'impression qu'elles font trembler pratiquement les fondements de ces usines et de ces lieux de mort. C'est-à-dire que pour un moment, vous avez des femmes réunies autour d'une femme qui accouche. On sait que l'enfant est souvent condamné, la mère va peut-être s'en tirer, mais souvent non. Mais il y a quelque chose qui se joue là, je dirais, de cette bataille entre la vie et la mort, où même pour un moment, ces textes ont une puissance inouïe. Et c'est pour ça que j'étais triste, que je suis triste, que si peu de gens les lisent.
Oui, parce que c'est comme un rite de vie, un retour à quelque chose de la normalité, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui mettent au monde des enfants. Au-delà du fait, évidemment, que ce sont des naissances à l'issue fatale, que toutes ces vies ont presque une issue fatale pour la plupart d'entre elles, mais vous montrez bien que c'est une manière de remettre de l'ordre dans la logique mortifère qui a été mise en place par le nazisme et qui a bouleversé l'ordre du monde dans le sens où tout n'était que mort. Et là, soudain, c'est comme une vie, même si elle n'a pas vraiment, voilà, si ça ne va pas être une vie qui va pouvoir s'installer, mais c'est en tout cas un retour de la vie.
Un retour de la vie en chacune des femmes, un retour à une humanité, à une féminité. C'est une bataille perdue d'avance, puisque tout le monde sait née l'issue. Dans chacun des récits que j'ai pu lire, il y a la chute. Et la chute est terrible. Mais il y a ces moments d'extraordinaire humanité que d'ailleurs, presque chacune des intervenantes, il y avait beaucoup de femmes qui ont intervenu dans ce colloque, mais pour presque chacune de ces situations exceptionnelles, il y a ce que vous appeliez donc force de vie, retour. Je ne sais pas si on a encore le temps d'évoquer, par exemple, les interventions de ce colloque ont porté sur toute une palette, je dirais, d'inscriptions des femmes dans l'histoire et de lutte des femmes, encore une fois, avec les armes qu'elles avaient. Et je pense par exemple que si on pense à celles qu'on appelait les mères de la place de Mai, ou que les généraux ont appelées les folles de la place de Mai, et qui se réunissent régulièrement sans armes pour réclamer au moins l'endroit, de savoir l'endroit où ont été enterrés leurs enfants, de savoir quel a été leur sort, et tout le monde croit que ce sont en effet des folles, puisqu'elles viennent sans armes, sans puissance, et c'est une sorte de combat pour les droits de l'homme qu'elles ont remporté. Si on pense par exemple au Rwanda, il y a, alors vous le disiez, il n'y a pas de mot témoin dans notre langue en tout cas, il y a le mot survivante, il n'y a pas de mot témoin, mais au Rwanda par exemple, ce sont les femmes qui portent le témoignage. Je pense à des textes comme celui d'Esther Mujawayo ou celui de Yolanda Mukangasana, mais elles portent aussi la reconstruction. C'est-à-dire que dans l'après-génocide au Rwanda, elles essayent de reconstruire dans une situation qui, vous le savez, est terrible, puisque ceux qui sont les victimes, ceux qui sont les bourreaux, sont condamnés à vivre ensemble. Mais elles conduisent quelque chose de ce type, ce qui fait d'ailleurs qu'une partie, on pourrait évoquer les femmes au goulag. Je pense à un texte, je voudrais au moins dire le titre de cet ouvrage, qui est Le Vertige de Evgenia Ginzburg. Alors nous connaissons, quand on s'intéresse à ces questions, nous connaissons le nom de Solzhenitsyn, de Varlam Shalamov, mais Evgenia Ginzburg, Le Vertige, est un des grands textes du XXe siècle. On le connaît peu. Et dans Le Vertige, vous retrouvez les mêmes phénomènes, un peu de maternage, des femmes les unes pour les autres. Il y a la transmission du génocide arménien, qui a beaucoup été conduite par ces vieilles femmes en deuil, qui n'ont fait que transmettre d'ailleurs souvent plus le deuil que la culture. La transmission de la culture est passée par d'autres voies. Donc voilà, je crois que les deux dernières d'ailleurs interventions du colloque posaient cette question. Y a-t-il une résilience? Y a-t-il une capacité de résistance à proprement féminine? Et je trouve important que la question soit posée. Je ne suis pas sûre qu'il faille théoriser la réponse, mais que la question soit posée, c'est important pour les femmes et pour les hommes.
Merci beaucoup. Merci encore. Donc, je rappelle à Nidayan Rosenman que ce travail a été présenté lors d'un colloque consacré à la question des femmes dans la violence de guerre, entre autres, et qu'on peut vous lire dans Les Alphabets de la Shoah, paru en 2007 aux éditions du CNRS. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.